Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Corinne.
Aujourd'hui, chères auditrices et auditeurs, Asialogie vous emmène au pays du sourire.
Ah.
C'est le nom poétique donné au Cambodge.
D'accord.
Par la grâce et la chaleur de ses habitants, et par leur sourire bien évidemment.
J'imagine, oui.
Et comme cette année, c'est la triste commémoration des 50 ans de la prise de Phnom Penh par les Khmers Rouges, et puis la prise de Phnom Penh, la prise du pouvoir par les Khmers Rouges, bah, raconter un petit peu de ce pays avec lequel nous avons une histoire commune s'imposait.
Bien sûr.
Mais d'abord, pour mieux comprendre, on va parler géographie, un peu de son histoire.
Oui.
On parlera de la guerre un peu plus tard, la semaine prochaine, Didier.
Okay, d'accord.
Et toi Didier, pour cette émission-là, tu vas nous émerveiller avec l'histoire d'Angkor.
Ah oui.
Et de sa découverte par un Indiana Jones français.
Et voilà.
On va découvrir tout à l'heure.
Tout à l'heure. Mais donc d'abord, nous allons partir pour le Cambodge, et tu vas commencer par nous expliquer, comme tu l'as dit, le Cambodge géographique, avoir une cartographie de tout ça, et puis qu'est-ce qu'il y a de particulier, quoi, qu'on comprenne où on va.
Oui, c'est quoi le Cambodge ?
C'est ça.
Alors c'est en Khmer, c'est la langue, le Khmer, c'est Kampuchea.
D'accord.
Voilà. Alors le Kampuchea est situé dans la péninsule indo-chinoise en Asie du Sud-Est, bien sûr, et c'est un pays qui partage sa frontière avec trois autres pays.
D'accord.
Le Vietnam à l'est, le Laos au nord et la Thaïlande à l'ouest.
Ok, d'accord.
Alors il compte aujourd'hui un peu plus de 17 millions d'habitants, très majoritairement bouddhistes. Et le Cambodge possède 443 kilomètres de côte ouverte sur le golfe de Thaïlande au sud, et il y a de très belles plages.
Très bien.
Voilà, alors sa forme est presque carrée et sa superficie est trois fois moins grande que celle de la France. Moi, j'aime bien comparer avec nous pour qu'on se rende compte.
Ça m'aide aussi.
Voilà. Et son climat est tropical avec des moussons, donc des grosses pluies, deux saisons, la saison sèche de novembre à avril et la saison humide, on va dire, la saison des pluies, parce qu'il pleut beaucoup, de mai à octobre.
C'est peut-être pas le moment où il faut y aller alors ?
Non, ça dépend ce qu'on veut y faire en fait.
Okay,
on va en reparler.
Okay, d'accord.
Tout dépend. Alors, quant aux températures, elles sont élevées toute l'année. Il faut compter 30 degrés en moyenne.
Alors, tout de même.
Quand
d'accord.
il pleut, ça se rafraîchit un peu.
Oui.
En novembre, décembre, janvier, février, c'est un petit peu plus frais.
D'accord.
Mais ça descend jamais en dessous de 25.
Ok, d'accord.
Voilà, il fait chaud au Cambodge.
D'accord. Alors, on a les températures. Est-ce que tu peux nous parler du relief du Cambodge ?
Oui, alors il a une géographie, un relief contrasté, le Cambodge, avec des particularités qui méritent d'être développées. Alors, on y trouve une grande plaine centrale, je vais y revenir,
d'accord.
des zones montagneuses tout autour, sauf au sud, puisque c'est la mer. Et je vais d'abord parler de ces montagnes. Alors, à l'ouest, on trouve la chaîne des cardamomes. Vous savez, c'est ce qu'on met dans la cuisine. C'est absolument délicieux, la cardamome, ça parfume le riz d'une façon incroyable. Et l'autre montagne, c'est le massif de l'éléphant. Ah. Ça fait quand même rêver, tout ça.
Plutôt, oui.
Et ce sont les plus hautes montagnes du Cambodge, avec pour point culminant, alors tout est relatif, en haute montagne, c'est le Phnom Oral, 1813 mètres.
D'accord, oui, c'est pas très haut, mais c'est pas
C'est pas très
mal,
haut, mais quand même. Et ces régions-là sont couvertes de forêts tropicales denses, avec une très riche biodiversité. Ce sont des zones peu peuplées et difficiles d'accès.
D'accord.
Au nord, on trouve les monts d'Angrek, qui longent la frontière avec la Thaïlande. Alors, ce sont plutôt des collines, puisque l'altitude est de 700 mètres maximum. Et à l'est, il y a des plateaux couverts de forêts tropicales et de savanes. Et cette partie du Cambodge est peu peuplée. Elle est habitée par des minorités ethniques autochtones.
Ah, d'accord, ok.
Voilà. Alors, ce sont ces zones-là, malheureusement, qui sont soumises à la déforestation et l'exploitation minière.
J'imagine, malheureusement.
Oui, c'est des populations minoritaires.
Hein.
Voilà. C'est toujours un peu comme ça.
Alors, on a fait le tour, là, mais tu ne nous as pas parlé du centre du pays.
C'est fait exprès.
J'imagine bien.
Didier, je vais en parler maintenant. C'est une grande plaine, le centre du pays, et c'est le cœur du pays.
Ouais.
Et cela pour deux phénomènes naturels majeurs. Il y a le fleuve Mékong.
Ah oui.
Alors, ça fait rêver ce nom-là, Mékong,
le Mékong, oui, c'est ça.
Qui traverse le pays du nord au sud, quasiment au milieu.
D'accord.
Et le lac Tonlé Sap, le plus grand lac d'eau douce d'Asie du sud-est.
Ah oui.
Voilà, bah oui, il y a le lac Baïkal en Russie qui doit être un peu plus grand quand même, je pense.
Oh, non, je veux pas te contrôler. D'accord.
Oui, voilà. Alors, cette région, c'est le grenier à riz du pays, cette grande plaine centrale, grâce à la fertilité de ses sols et à son régime hydrique lié au mousson. Je vais y expliquer.
D'accord.
Alors, le Mékong et le Tonlé Sap sont indissociables et jouent un rôle fondamental sur le plan géographique, économique, écologique et culturel. Alors, je vais commencer par le Mékong, qui est l'artère, on parle du cœur, mais là, je vais parler de l'artère vitale du Cambodge. Donc, c'est un fleuve long de 4500 km. Alors, 4500 km sur toute sa longueur,
hein, bien sûr.
Qui traverse 6 pays d'Asie du Sud-Est,
d'accord.
avant de se jeter dans la mer de Chine méridionale. Alors sur sa portion cambodgienne, quand même, sa portion cambodgienne est de 480 km
d'accord.
et navigable.
Okay.
Alors le Mékong et ses crues annuelles liées à la mousson fertilisent les sols et les rendent propices à la riziculture, l'activité principale de subsistance avec la pêche pour des millions de Cambodgiens.
D'accord.
Alors son rôle nourricier est renforcé par la rivière et le lac Tonlé Sap, un affluent unique, donc la rivière et le lac qui sont liés forcément, et qui changent de sens selon la saison. Et c'est ça qui est très original et unique au monde.
Ouais.
Durant la mousson, le Mékong, il est gonflé, il fait refluer l'eau vers le lac Tonlé Sap, multipliant sa surface par 6.
Ah oui, tout de même.
Et assure ainsi une fertilité exceptionnelle, une très grande biodiversité. Et on dit du Tonlé Sap qu'il est le cœur battant du Cambodge.
D'accord. Bon, alors là, tu m'intrigues. Explique-nous ce qui se passe avec donc, le lac Tonlé Sap et le Mékong. Que se passe-t-il lors de la mousson, quoi, alors ?
Comme je le disais, le Tonlé Sap, c'est un lac unique au monde, comme une mer intérieure. Donc, ça, une mer intérieure, il y en a d'autres. Mais il est un écosystème vital, une source de vie. C'est un lac à géométrie variable, car sa surface et sa profondeur varient énormément au cours de l'année. En saison sèche, il compte environ 2500 m² et 1 mètre de profondeur.
D'accord.
Et lors de la saison des pluies, il peut atteindre plus de 15 000 m² et 9 mètres de profondeur.
Okay.
La différence, elle est énorme. Et ça peut couvrir alors jusqu'à 7% du territoire du pays.
Et si tu nous dis qu'il se multiplie par 6, forcément, oui.
C'est énorme. Différence. Alors, pour qu'on se donne une idée plus précise, c'est 10 fois le territoire de Londres.
Ah oui.
C'est très, très, très étalé.
D'accord.
Alors, ce lac connaît un phénomène hydraulique unique, c'est le renversement du courant, ce qu'on a un petit peu de mal à imaginer.
Ouais.
Alors, en saison sèche, le Tonlé Sap se déverse dans le Mékong, la
d'accord.
rivière et puis l'eau du lac, par la rivière Tonlé Sap, qui est un de ses affluents.
D'accord.
Et lors de la saison des pluies, il y a aussi la fonte des neiges qui vient de l'Himalaya, le Mékong qui gonfle sous l'effet de la fonte des neiges, des crues, et en fait, il inverse le courant de la rivière, il est beaucoup plus fort que la rivière, et ça va refouler l'eau vers le lac, qui va alors déborder, inonder les forêts, fertiliser la plaine en assurant des conditions idéales pour la pêche et la riziculture. Alors, à savoir, le lac et les forêts inondées sont classés réserves de biosphère par l'UNESCO et que cette zone abrite plus de 300 espèces de poissons, des oiseaux, des reptiles.
Toute une faune, une flore,
Exactement. Et environ 1,5 million de personnes vivent autour du lac.
Alors, aussi.
Dans des maisons sur pilotis ou sur des villages flottants.
D'accord.
Bon, on s'écoute une pause musicale, Didier. C'est Laura Mam et elle est américano-cambodgienne, mais très, très, très connue et adorée au Cambodge.
Ok. Pas
Laura
encore de
Mam.
Moi, mais je vais découvrir.
Tu vas découvrir.
C'est ça.
Maybe I'm more than that. Maybe I'm more than that.
Et voilà, vous êtes toujours avec Asialogie sur Radio Alpa 107.3. Et nous allons donc retourner au Cambodge. Et cette fois, en fait, Corinne, moi j'aimerais bien savoir si je peux naviguer et voguer sur le Mékong et puis bah, sur ce lac, le Tonlé Sap. Mais comme tu m'as parlé de colonne vertébrale, je crois déjà savoir ce que tu vas me dire.
Oui. Oui Didier, on peut naviguer sur le Tonlé Sap, mais seulement pendant la saison des pluies, parce que quand il n'y a qu'un mètre de profondeur,
et oui, ça limite.
Il faut avoir une barque peut-être, mais tu ne peux pas vraiment le mot
oui,
naviguer.
Une petite barge quoi.
Oui c'est ça. Voilà, donc on peut naviguer pendant la saison des pluies de juin à novembre, hein, okay. Faut attendre que les pluies soient quand même un peu tombées, mm-hmm. Et bien évidemment quand il est au maximum de sa surface, parce que c'est assez calme, je veux dire c'est un lac quand même.
D'accord, hein. Oui bien sûr.
Mais il faut savoir que ce Tonlé Sap est un écosystème menacé par le changement climatique,
ah, lui aussi.
Qui entraîne des sécheresses prolongées, donc ça perturbe le fonctionnement on va dire hydrique, mm-hmm. de la région.
D'accord.
Et aussi, alors ça c'est, je dirais, bah, tout aussi grave, je ne sais pas s'il y a un niveau de gravité
ouais,
entre changement climatique, mais bon là c'est les humains du coup, enfin c'est toujours les humains d'ailleurs.
Ah, de toute façon tout vient de là.
Oui, tout vient de là, c'est ça tout à fait. Mais c'est la construction de barrages sur le Mékong en amont,
d'accord.
Dans d'autres pays,
oui,
notamment
oui.
En Chine et au Laos.
Oui, parce qu'ils se partagent ce fleuve.
Ils se partagent le fleuve. Et donc ils ont construit, parce qu'ils ont besoin d'électricité, etc., mm-hmm. des barrages,
et du coup,
bah, ça réduit les crues.
Eh oui.
Alors, quand il pleut pas beaucoup, bah, ça se fait particulièrement sentir.
Mmh.
Alors, quant au Mékong, bah, l'artère du pays, c'est une voie de transport fluvial majeure, mmh. particulièrement pour les zones rurales qui sont éloignées des grands axes routiers. Et la population utilise des bateaux-taxis qui relient des villes clés comme Phnom Penh et Krati. Alors,
d'accord.
Ça facilite le commerce intérieur et transfrontalier. On peut ici... aussi, en tant que touriste, faire des croisières.
Ah,
genre
j'imagine.
Des bateaux assez petits, quand même.
D'accord,
hein.
Ok.
Mais voilà, derrière la belle image du Mékong et du Tonlé Sap, mm-hmm. se cachent bah, des enjeux écologiques et politiques, parce que bah, le Mékong subit des menaces croissantes, le Tonlé Sap aussi, avec la construction donc, des barrages qui réduisent le débit de l'eau, perturbent les cycles et entraînent la baisse du niveau d'eau, mm-hmm. avec une raréfaction du poisson,
forcément,
etc.
Ça va être pire.
Voilà. Alors, le Cambodge fait bien sûr partie de la commission du Mékong, hein, c'est la MRC, mm-hmm. Mékong Regional Commission.
D'accord. Hein,
une commission internationale qui comprend le Vietnam, le Cambodge, le Laos et la Thaïlande.
D'accord.
Mais il a peu de poids, hein, c'est pas le pays le plus riche.
Oui.
D'autant plus que la Chine est aussi impliquée dans la gestion de l'eau du Mékong, puisque le Mékong prend sa source en Chine sur les plateaux tibétains.
Ok, d'accord. Forcément,
voilà.
Contre la Chine, c'est plus compliqué.
Contre la Chine, alors, la Chine, elle est observatrice, mais elle a quand même son mot à dire.
J'imagine
on imagine bien.
D'accord. Et alors, là, on a parlé du côté très pratique du Mékong, mais et sur le plan culturel, qu'est-ce que représente le Mékong pour les Cambodgiens ?
Bah Didier, on s'en doute un peu, hein, le Mékong a une valeur culturelle, spirituelle et symbolique majeure. Parce que c'est un fleuve très majestueux, très impressionnant. On en parlera peut-être un jour du Mékong, parce qu'on peut le décrire sur tout son parcours.
Okay.
Alors, il est omniprésent dans la mythologie khmère, et bien sûr pour tout ce qui est fête religieuse. Il est vu comme un élément sacré, symbole de vie et de fertilité, mm-hmm. mais aussi de danger pour le peuple cambodgien. C'est la mer des eaux. C'est Mékong en khmer.
D'accord.
Voilà pourquoi il s'appelle Mékong.
Okay,
c'est la mer des eaux.
Okay.
Et ces eaux sont vues comme... elles sont purificatrices et sacrées,
oui.
donc. Alors, le Mékong est aussi habité, Didier, par des esprits et aussi les fameux nagas.
D'accord.
Alors, on connaît les nagas, c'est les espèces de serpents mythiques, protecteurs. Ce sont des éléments qui sont très courants de la cosmologie bouddhique et hindouiste,
d'accord.
qu'on retrouve bah, en Thaïlande, en Birmanie, etc. Mm-hmm. C'est, bah, je dirais, c'est une créature très proche du chinois, c'est...
Du dragon chinois.
Oui, c'est l'équivalent du dragon chinois, je dirais. C'est protecteur, donc on retrouve cette forme des toits,
mm-hmm.
hein, qui se recourbe en forme de naga.
Mm-hmm.
en forme de serpent.
D'accord.
Voilà. Et le Mékong est aussi associé à des vieilles légendes hein, qui enseignent le respect de la nature et l'harmonie cosmique.
Eh bien, on ferait bien de l'écouter, alors.
On ferait bien d'écouter tout ça. Et le Mékong est aussi le symbole de l'unité nationale parce qu'il relie du nord au sud les régions du Cambodge.
Bien sûr.
Et puis, les différents peuples du Cambodge aussi. Il sert de trait d'union culturelle avec les peuples voisins aussi, puisqu'ils se partagent le Mékong.
D'accord.
Et puis, pour faire le lien avec Angkor, le Mékong a fait prospérer des royaumes anciens grâce à sa proximité. Bon, Didier, c'est moi qui ai trouvé la pause musicale, là. Alors, je crois qu'il s'appelle Jay Chan.
D'accord.
Et la chanson s'appelle Rom Vong Angkor. Donc, c'est une chanson qui parle d'Angkor, mais je ne sais pas ce qu'il en...
Oui, on ne maîtrise pas bien.
On maîtrise encore moins le Khmer que le chinois, je crois.
Ah moi, je ne maîtrise rien du tout, donc comme ça, c'est
mais
plus
si
simple.
Tu commences.
Oui, oui. Alors, on va écouter et vous allez faire votre propre opinion.
โซซีมจำเรียงเรียไตรโจลฉลามการบังโอนประดำอ้อยบองทะเลออมโกบองบานโยบกาตัวทวายเทวดาสมโปรเตียนปอช่วยไทยออมโกอ้อยทันทีรูเคดอมแนลขมาสระน้องรุ่ง
Bon, c'était Rom Vong Angkor dans Asialogie sur Radio Alpa 107.3.
Oui, c'est très dansant,
c'est gay,
j'ai trouvé
c'est
ça
gay,
agréable.
Oui, oui,
tout à fait.
Bon Didier, peut-être qu'on a besoin d'en savoir un peu plus sur l'histoire antique du Cambodge avant d'aborder la civilisation d'Angkor, qui est plutôt récente,
et oui, oui.
Quoi qu'on puisse penser.
Oui, bien sûr. Alors, la civilisation d'Angkor, c'est l'Empire Khmer qui a duré du 9e siècle au 15e siècle. C'est récent quand même.
Oui,
même.
C'est récent parce que c'est après Jésus-Christ.
Voilà.
On est d'accord.
Donc du coup, ça correspond à peu près à l'époque de Charlemagne et à celle de la Renaissance, pour faire un parallèle, d'accord ?
D'accord.
Donc quelques mots sur l'histoire du Cambodge avant l'émergence de l'Empire Khmer.
Oui, avant.
Oui.
Avant le 9e siècle, du coup.
C'est ça. Des traces de présence humaine donc, sont attestées au Cambodge dès le Mésolithique. Là, il y a plus de 10 000 ans environ.
D'accord.
Et vers 1500 ans avant Jésus-Christ, on a pu constater en fait, l'existence de la riziculture et de l'utilisation du bronze.
D'accord, oui. Donc, c'était presque comme chez nous, je crois.
Alors là,
on va pas s'aventurer. Oui, voilà. Non. Bon, revenons au Cambodge.
Donc, 2500 avant Jésus-Christ au 1er siècle, c'était les chefferies locales de tribus qui structuraient la société, en fait, très influencées par l'Inde sur le plan religieux et sur l'écriture. Puis,
d'accord.
Il y a eu les royaumes pré-angkoriens du 1er au 9e siècle, dirigés donc par les élites hindouistes.
D'accord. Oui, donc c'était hindouiste
voilà.
À cette époque-là.
Et après, on arrive...
Ah oui, on va arriver à l'an...
Khmer, alors,
quand est-ce qu'il est né, l'Empire Khmer, Didier
voilà.
Alors, comment il s'est développé? Raconte-nous, parce que
je te dis tout.
C'est un truc absolument gigantesque.
C'est ça. Et alors, en fait, c'est en 802 qu'est né l'Empire Khmer. Il est fondé par Jayavarman, qui fera d'Angkor une capitale monumentale, qui deviendra le centre d'un empire prospère et puissant. Alors, il s'était proclamé roi universel, ce qui a unifié les principautés locales sous une autorité unique. On a un plus grand territoire, on a déjà connu ça
avec Qi Huangdi, le premier empereur de Chine.
Exactement, c'est à lui que je pensais. Alors, Angkor deviendra ainsi le centre du pouvoir royal durant plusieurs siècles. Elle symbolisait la puissance divine du roi et l'ordre cosmique hindou et bouddhiste.
Ah oui, le bouddhisme était déjà arrivé par là.
Chaque roi va laisser sa marque en construisant un temple ou un monument pour affirmer son pouvoir et puis sa piété, un peu comme tous ils le font, quoi.
C'est vrai, comme tous ils le font, même encore aujourd'hui.
C'est ça.
Alors, c'était donc une civilisation très évoluée et tout cela grâce à la maîtrise de l'eau.
Oui, c'était une thalassocratie. Alors ça, j'avoue que je ne connaissais pas. C'est une civilisation avancée grâce à la maîtrise de l'eau et avec la création de canaux, de réservoirs pour irriguer les rizières en toute saison, ce qui assurait en fait des récoltes abondantes. Ça a permis de nourrir une population nombreuse, peut-être jusqu'à 1 million d'habitants.
Oui, c'est énorme. Et oui, et puis quand les gens ont de quoi manger,
voilà, forcément,
ils se portent bien, ils sont heureux.
Et puis la ville grandit,
grandit. Voilà.
La civilisation angkorienne, c'est aussi distinguée par une production artisanale et artistique exceptionnelle, en particulier dans l'architecture religieuse. Et ça.
Alors, mais pourquoi s'est éteinte cette civilisation, Didier, elle était si florissante?
Son déclin a commencé donc à partir du 15e siècle pour plusieurs raisons. Le pouvoir royal s'était affaibli à cause de guerres avec les royaumes voisins et parce que le système hydraulique s'était véritablement effondré à cause d'inondations répétées, en fait.
Oui, donc ça s'est cassé, le système.
Forcément, une thalassocratie, quand ça ne marche plus,
Le
régime de l'eau, voilà. Ça l'a entraîné, en fait, la migration de la population. Pour terminer, en 1431, la ville d'Angkor est prise par les Thaïlandais, ce qui a marqué la fin de son rôle politique central pour finir vidée de ses habitants.
Ah oui, c'est comme ça que ça s'est terminé.
Voilà. Mais la civilisation d'Angkor est restée vivante dans la mémoire des Cambodgiens. Les temples sont devenus des lieux de pèlerinage bouddhiste. Et Angkor Wat est aujourd'hui le symbole national du Cambodge, figurant au centre de son drapeau.
Ah oui, Wat, ça veut dire temple.
C'est ça.
Alors, quels sont les temples, justement? On parle de temples, et les plus importants du site d'Angkor, Didier?
Alors, le site archéologique d'Angkor est situé près de la ville de Siem Reap. C'est immense, hein. Donc 400 km². Pour comparer, Paris fait 105 km².
Oui, donc, oui, c'est très grand.
Voilà. Il abrite des centaines de temples, vous imaginez bien, qui illustrent l'apogée de l'art khmer et qui mélangent les influences hindoues et bouddhistes. Il est situé en pleine jungle et n'a été découvert par les Occidentaux qu'au 19e siècle. Donc, parmi les temples et monuments les plus exceptionnels, il y a bien sûr Angkor Wat, le plus grand monument religieux du monde, et le Bayon, célèbre pour ses tours au visage souriant et énigmatique, représentant Bouddha, et le Taprom, envahi par les arbres, très spectaculaire. On a des images de ça.
Ah oui, on a les images de ça, tout à fait. Alors, tu as dit que le site d'Angkor n'a été découvert qu'au 19e siècle, Didier, mais c'est fascinant.
Ça l'est, ça l'est.
Parce que c'est hier, le 19e siècle.
C'est pas vieux. Oui, pendant la période coloniale, et par l'explorateur français, Et cela a été un des plus grands moments de l'histoire de l'archéologie. Alors, les temples n'avaient jamais été abandonnés par la population locale, mais leur existence était inconnue en Europe. Il faut dire qu'après le déclin de l'Empire Khmer, Angkor a été progressivement envahi par la jungle, et les temples d'Angkor ont été lentement oubliés des pays voisins, mais pas des moines bouddhistes. Quelques missionnaires et des marchands portugais et espagnols avaient pourtant déjà vaguement évoqué l'existence de grands temples au Cambodge, mais leur récit était resté confidentiel.
Oui, les infos, elles n'allaient pas aussi vite qu'aujourd'hui, c'est sûr.
C'est ça.
Alors, comment s'appelle le Français qui a donc découvert Angkor, Didier? C'est important que ce soit un Français, quand même.
Alors, il s'appelle Henri Mouhot.
Et d'accord.
C'est le redécouvreur, si on veut, d'Angkor. Il était naturaliste et explorateur français. Il avait entrepris en 1859 un voyage en Asie du Sud-Est pour étudier la faune, la flore et les cultures locales. Et en 1860, guidé par des Cambodgiens, il ira explorer dans la région de Siem Reap et il va découvrir le majestueux encore vaste, envahie par la végétation. Mais
ça a dû lui faire un choc.
Alors, oui, je me mets à sa place, oui, je pense. Toujours impressionnant. On imagine, en fait, sa stupéfaction et puis le choc esthétique et émotionnel qu'il a pu avoir, quoi.
Henri, oui ?
Henri, donc, croit d'abord, mais à tort, que les temples avaient été construits par une civilisation disparue, beaucoup plus ancienne que les Khmers, en fait, et cela se comprend. Il n'avait pu avoir de connaissances sur l'histoire locale, mais ses notes, ses dessins et ses descriptions vont susciter un immense intérêt en Europe.
Ben oui, il ne pouvait pas savoir. Alors, qu'est-ce qu'il est devenu, Henri Mouhot, après cette découverte, Didier ? On n'a plus beaucoup de temps, mais je pense que...
Oui.
Qu'est-ce qu'il est devenu ?
En fait, le pauvre, il va mourir au Laos en 1861. Donc,
ah oui, très vite après.
Un an après, une mauvaise fièvre. Et en fait, ses récits seront publiés en 1863 sous le titre de Voyage dans les royaumes du Siam, de Cambodge et de Laos. Et ils feront découvrir aux Européens cette civilisation méconnue, devenue mythique. Et très vite, les archéologues, les cartographes, des aventuriers, et puis ensuite des administrateurs, ils vont envahir la cité, quoi. Et puis, la France va établir son protectorat sur le Cambodge.
Ah oui, c'est vrai.
Et la même année, en 1863, elle va bien sûr s'intéresser de plus près encore. Et en 1900, pour finir, elle va créer l'École française d'Extrême-Orient qui va être chargée de l'étude et de la restauration des sites archéologiques d'Asie du Sud-Est. D'autres archéologues français consacreront leur vie à dégager les temples de la végétation et les restaurer pierre par pierre, puis à raconter leur histoire. Donc encore, et la cité oubliée est devenue un trésor mondial. C'est tout simplement classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1992, avec les millions de visiteurs qu'on connaît.
Didier, merci beaucoup. Chères auditrices, auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez nous réécouter le samedi à 9h30, oui. Le mercredi à 13h, et bien sûr en podcast et toujours sur Radio Alpa. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine.
Bonne semaine à tous. À la semaine prochaine. お客様のご協力